Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bonjour et bienvenue dans Appel d'air. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à un univers bien précis, celui de la radio. C'est parti pour une demi-heure d'émission radio qui parle de radio. On commence en musique avec Radio Sweetheart, une chanson d'Elvis Costello reprise ici par le groupe Guanabats. My head is spinning and my legs are weak. Goose step dancing, can't hear myself speak. Open the eyes of the ugly girls then. Settle for the lies of the last chances when. Slow motion drunk stick wallflower dancers. Une bande dessinée de Charlie Zanello, une bande dessinée sous-titrée Radio France de fond en comble. En effet, l'auteur a eu le droit de passer un an dans les locaux de la Maison de la Radio à Paris. Il pouvait aller partout, ou presque. Il est arrivé en mars 2019 avec son crayon et son carnet. C'est donc un reportage qui nous est livré ici, une immersion dans les coulisses de Radio France, mais le tout nous est raconté avec beaucoup d'humour, car l'auteur se met en scène, il se dessine. Nous sommes à ses côtés pour arpenter les couloirs gigantesques de ce bâtiment. Il y a vraiment de quoi se perdre. Un bâtiment inauguré en 1963 sur les quais de la Seine, loin du métro, pour échapper aux nuisances sonores. La Maison de la Radio abrite France Culture, France Inter, France Bleu, France Info, France Musique, FIP et le Move. Au total, plus de 4000 employés y travaillent, des corps de métiers différents. On peut y retrouver des cuisiniers, des électriciens, des mécaniciens, des comptables, musiciens et bien d'autres. Mais ce sont surtout les métiers de la radio que nous découvrons ici. Les journalistes, les chroniqueurs, mais aussi des réalisateurs, des techniciens, des attachés de production, d'autres métiers moins connus aussi comme celui de bruiteur. Charlie Zanello découvre des studios mythiques comme les studios 105 et 106, mais aussi des salles de concert, notamment l'imposant Auditorium. Il a d'ailleurs une belle surprise quand il y va, un organiste est en pleine répétition. L'auteur assiste aussi à des conférences de rédaction d'émissions matinales. Il est dans les bureaux, en pleine effervescence, lorsqu'on attend les sondages de Médiamétrie. Il découvre aussi le bureau de Frédéric Lodéon à France Musique, qui croule littéralement sous les piles de CD. Il assiste bien sûr aussi à de nombreuses émissions connues ou moins connues. Il rencontre de nombreux animateurs. Et il voit défiler dans les couloirs des invités très variés, des hommes politiques, des comédiens, des chanteurs. Il nous emmène aussi dans des endroits un peu plus inattendus, les sous-sols, le centre distributeur de modulation, et il nous emmène même entre les murs. Oui, oui, vous verrez. Charlie Zanello, il sort aussi de la Maison Ronde, il va en extérieur assister à des enregistrements d'émissions en direct et en public, comme par exemple le jeu des 1000 euros. Et il va suivre également le mythique Tour de France. Le tout nous est raconté avec un dessin presque croqué sur le vif, un dessin dynamique. Les bords des cases ne sont pas dessinés, le trait est léger et vif, ce qui correspond bien au ton de l'album. L'auteur a le sens de l'autodérision, il ne se montre pas toujours sous son meilleur jour. Ses maladresses nous font rire, il faut dire que c'est parfois difficile pour lui de trouver ses marques, de se faire accepter par tout le monde. Maison Ronde, c'est une bande dessinée qui est ancrée dans le réel, mais pas toujours, puisqu'il imagine aussi des conversations avec un personnage bien particulier, le fantôme de la radio. Au final, cela donne une BD passionnante et drôle, on apprend beaucoup de choses. Même les animateurs de Radio France ont fait des découvertes à la lecture de cette BD. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet une interview de Charlie Zanello sur France Inter à l'occasion de la sortie de la BD. Maison Ronde est publiée aux éditions d'Argo. Pour compléter cette BD, vous pouvez aussi voir ou peut-être revoir le film documentaire de Nicolas Philibert intitulé « La maison de la radio » qui a été tourné en 2013. Un film qui nous plaçait lui aussi en immersion, en position d'observateur. Le réalisateur avait fait le choix d'enchaîner des successions de séquences, de scènes, sans aucun commentaire, sans interview. Quelqu'un dans la BD de Charlie Zanello en parle d'ailleurs et trouve ça plutôt ennuyeux. C'est un autre point de vue, c'est sûr. Avec la BD Maison Ronde, en tout cas, vous ne vous ennuierez pas.
He's just the same old show. I'm not ready. He's just the same. Never fell in love till I fell in love with you. Never know what a good time was, so I had a good time with you. If you wanna get the feeling, you wanna get right, then the music's coming out. For when the music hits, I feel no pain at all.
You know
what someone that I'm taking with my dad. He tried to give me love that he never had, but he gave more love to his bottle of wine. So I go out, find love of another kind. Here it is, here I am, turn it up, fucking loud. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. Nah. Radio Clash, Magnificent Seven. I was a choir boy, I showed me no heaven. Tutus, surely lost. No remorse, ignoring the cons. Here it is, here I am, turn it up fucking loud. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. Oh, don't you know? Here it is, here I am, turning up fucking loud. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. I got a place, so I got a place, so I got a place to go. When I got the music, yeah, I got a place to go. Hits again. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go.
Maintenant de découvrir encore une bande dessinée qui parle de radio. Il s'agit d'Interférence, une bande dessinée du scénariste Laurent Galandon et de la dessinatrice Jeanne Puchol. C'est une histoire de radio et d'amitié à la fin des années 70. Les deux jeunes héros s'appellent Alban et Pablo. Ils sont issus de milieux sociaux complètement différents. Le premier est le fils d'un chef d'entreprise et le second le fils d'un ouvrier d'origine espagnole. Les deux copains, à l'été 73, pendant leurs vacances, vont faire, grâce à deux jolies anglaises, une découverte qui va changer leur vie. Ils entendent Radio Caroline, une radio pirate anglaise qui émet depuis un bateau en mer du Nord. Une radio qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont pu entendre jusque-là. Nos deux amis vont alors rêver de devenir animateurs radio à leur tour. Quelques années plus tard, en 1978, lors d'une soirée, ils rencontrent Douglas, un Anglais, un ancien technicien à bord du Radio Caroline. Et Douglas va les aider à monter leur radio pirate. À l'époque, en France, il n'y a pas de radio libre. Il y a les trois stations de Radio France et cinq radios privées, par exemple Europe 1, RTL. Mais ces radios ne sont pas vraiment libres. Elles dépendent de l'État pour une grande partie de leur budget. De nombreuses radios pirates existent en parallèle, mais sont pourchassées par les forces de l'ordre. Des camions goniaux tournent dans les rues pour repérer les émetteurs pirates et brouiller les ondes. Nos deux amis, avec Douglas et ses connaissances techniques, vont se lancer donc dans l'aventure. Ils créent Radio Nomade, qui porte bien son nom, puisqu'en effet, à chaque émission, ils changent de lieu pour émettre afin d'échapper aux forces de l'ordre. Afin que les auditeurs les repèrent sur les ondes, ils débutent à chaque fois par les premières mesures de « I Can Get No » des Rolling Stones. Sous les pseudonymes de Rackham et Teach, Alban et Pablo proposent une musique différente. Ils proposent essentiellement du rock. Et aussi, ils veulent donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ils interviewent des gens de la rue, par exemple des SDF ou des chauffeurs de taxi. C'est le début d'une période exaltante pour les deux amis, une période qui est aussi dangereuse. Il faut fuir la police, l'un des deux va même être soumis à un interrogatoire. Ils réalisent au fil du temps qu'ils n'ont pas forcément la même vision de la radio. Pablo, lui, aime faire de la radio parce qu'il aime faire passer de la musique et il aime parler à des gens invisibles, comme il le dit. Alban, lui, considère que la dimension politique est plus importante. Il a envie de défendre les libertés, des libertés d'expression. Leur histoire à ces deux amis, elle nous est racontée de nos jours par l'un des deux, lequel il faudra attendre la fin de l'album pour le découvrir, puisqu'on ne voit pas son visage. Il répond en fait à une interview à la radio, dans les locaux de Radio France. C'est le premier dessin de cette BD d'ailleurs que vous verrez, qui est une représentation du fameux bâtiment de la Maison Ronde qu'on a visité tout à l'heure avec la bande dessinée de Charlie Zanello. Interférence, c'est une bande dessinée qui est construite sur un scénario équilibré entre cette fiction attachante avec cette histoire d'amitié et cette découverte de tout un pan de l'histoire de la radio en France. Le tout est porté par un dessin en noir et blanc, au trait réaliste et sobre. Interférence est sorti aux éditions d'Argo en 2017. Si vous voulez, cette BD, vous pouvez aussi l'écouter. En effet, en 2018, une adaptation en pièce radiophonique a été réalisée par une radio associative de Valence qui s'appelle Radio Méga. Et le scénariste Laurent Galandon a piloté cette adaptation. Il fait aussi d'ailleurs partie du casting, il a un petit rôle, il interprète un des policiers. Vous pouvez la retrouver cette pièce très facilement sur internet en tapant Interférence au pluriel et Radio Méga. On continue en musique maintenant avec une chanson qui parle d'ailleurs de Radio Pirate, une chanson du groupe The Clash.
Pirate, beaming waves from the
embarque dans une radio. Et oui, on embarque puisque la radio est sur un bateau, comme cela était évoqué tout à l'heure dans la BD Interférence. Cette fois, c'est un film, Good Morning England, qui met en scène une de ces fameuses radios pirates anglaises qui émettaient depuis un bateau en mer du Nord. C'est une comédie qui nous transporte en 1966 à la rencontre de l'équipe de Radio Rock, une radio qui fonctionne sans interruption. Celui qui veille sur tout ce petit monde, le patron un peu si on peut dire, c'est Quentin qui est joué par l'excellent Bill Nighy. À ses côtés, on retrouve des DJ au style et aux personnalités variées, mais tous ont un point commun, leur amour du rock. Ils veulent donner à entendre cette musique qui fait les meilleures ventes de disques à l'époque, mais qui est quasi inexistante sur les ondes de la BBC. Le point de départ du film, en fait, c'est l'arrivée sur le bateau de Carl, âgé de 17 ans, qui vient d'être expulsé de son lycée. C'est sa mère qui l'envoie à bord, car Quentin est son parrain. Est-ce que c'est une bonne idée? On peut se le demander, puisqu'ici il va découvrir un monde de liberté, d'insouciance et d'excès aussi. Un univers assez déjanté quand même. Parmi les animateurs de Radio Rock, il y a un DJ américain qui est surnommé le Comte et qui est joué par le regretté Philip Seymour Hoffman. Et pour interpréter les animateurs anglais, on retrouve entre autres Nick Frost ou bien encore Rhys Ifans qui incarne Gavin. Gavin, c'est un ancien animateur de la radio, tout juste revenu à bord. Entre Gavin et le Comte, une rivalité va vite se déclarer. Sur la terre ferme, en Angleterre, il y a un homme qui est prêt à tout pour réduire cette radio au silence. C'est le ministre d'Ormondy, qui est joué par Kenneth Branagh, qui visiblement a pris beaucoup de plaisir à interpréter ce rôle. Radio Rock est écouté un peu partout et par tout le monde, des personnes de tous les âges, comme le montre le film dès les premières scènes, et notamment écouté par un écolier qui cache sa radio sous son oreiller le soir alors qu'il devrait dormir. Ça, c'est une chose qu'a vécu le réalisateur Richard Curtis. Richard Curtis, il était vraiment marqué par cette époque, il a voulu recréer tout cet univers. Il est en fait le réalisateur du film Love Actually, c'est aussi le scénariste de 4 mariages et un enterrement, du journal de Bridget Jones ou bien encore de Coup de foudre à Notting Hill. Ici, il est à la fois réalisateur et scénariste, il a préparé minutieusement son film. Il a d'abord concocté une playlist de 200 titres de la fin des années 60, une playlist qu'il a fini par réduire à 70 titres avec l'aide du superviseur musical du film, Nick Angel. Cette playlist, elle a été concoctée pas seulement pour la bande originale, mais aussi pour que les comédiens s'imprègnent de l'ambiance musicale de l'époque. Les comédiens ont aussi rencontré un ancien DJ d'une radio pirate des années 60 et ils se sont entraînés à animer une émission comme à l'époque, notamment pour maîtriser l'aspect technique puisqu'ils devaient enchaîner les vinyles et lancer des bandes magnétiques. A noter enfin que le film a vraiment été tourné sur un bateau, donc cette ambiance de camaraderie dans le film à laquelle on peut assister, et bien toute l'équipe l'a réellement vécu lors du tournage. Good Morning England, c'est un film qui est sorti en 2009, une comédie typiquement britannique à l'ambiance résolument rock et avec une bande originale formidable. Il va maintenant être temps pour moi de rendre l'antenne. J'espère que cette émission vous a plu, merci de l'avoir écoutée. Je terminerai avec un grand merci à toute l'équipe de Radio Grand Ciel, merci Christophe. Merci beaucoup Émilie et merci à celui qui assure la réalisation technique d'Appel d'air, même quand on n'arrive pas à se croiser en studio. Merci beaucoup Simon. Je vous dis à très bientôt dans Appel d'air.